Ah mais c'est le kéfir qui fait du bruit. Avant de commencer, je vais essayer de raconter pourquoi ce podcast, ce radiozine, cette émission se lance et comment on en est là.
I'm a music scientist.
I can see that you are. That laboratory table over there. Extraordinary. All that equipment.
Yes. Small possibly, but all of the essential.
L'idée, c'est qu'on s'inscrit d'abord dans un contexte. Un contexte post-attentat du 13 novembre 2015. Pré-COP 21, promulgation de l'état d'urgence, marche mondiale pour le climat interdite, des perquisitions partout en France. Un vrai scénario de film de science-fiction complètement dystopique. À cette période-là, je traîne pas mal mes pattes au Jardin d'Alice, à Montreuil, un collectif d'artistes qui a hébergé des associations venues du monde entier pendant la COP 21, pour mettre en place une vraie mobilisation citoyenne et pour dire non au greenwashing. C'est dans ce contexte que j'ai l'idée d'une sorte de radiozine. Je décide d'emprunter l'enregistreur d'un ami et de tenter de capter les moments forts de cette mobilisation sans trop savoir où ça pourrait aller. Le soir du 4 décembre au jardin, je croise Benjamin, un membre actif du collectif citoyen Les Engraineurs. On discute ensemble des Solutions 21. Les Solutions 21, c'était une exposition au Grand Palais, organisée par tout un tas d'entreprises et de multinationales. Le 4 décembre, c'était justement le jour d'inauguration des Solutions 21. De nombreuses associations écologiques s'y trouvaient pour dire non aux fausses solutions. Benjamin y était aux Solutions 21. Et moi, ce soir-là, j'avais mon enregistreur. On discute alors de cette période un peu complexe, de l'état d'urgence, de la marche pour le climat du 29 novembre interdite, de la COP 21, des Solutions 21 au Grand Palais. C'est le thème de cette première émission. Avant que l'émission commence, j'aimerais dire merci à Megacombi, qui m'a permis d'utiliser des sons de leur reportage au Grand Palais, le même jour de l'inauguration des Solutions 21.
Bah, les Engraineurs, c'était un collectif informel quoi, qui a que 2 ans et qui s'est formé suite à une organisation spontanée de manif, qui était la marche contre Monsanto. Et les gens sont venus au fur et à mesure via les réseaux sociaux pour aider à organiser. Et à la fin, tous ceux qui étaient le plus motivés sont restés ensemble. Et c'est que des gens qui cherchaient à s'engager, mais d'une forme différente. Donc on a essayé de faire les choses différemment via les Engraineurs. Quoi.
C'est parti sur un événement précis d'actualité ou
Ouais, c'était la marche contre Monsanto au mois de mai 2013. Et après ça, on s'est retrouvés, on s'est donné une charte, et en disant qu'on était un collectif horizontal, qu'on ne serait pas une asso, qu'on travaillerait sans argent. Et l'idée de base, c'était aussi de renouveler un peu les formes de bénévolat. En fait, ce qu'on voyait que dans les assos, il y a eu une phase. Moi, perso, j'étais dans travailler dans des assos aussi, quoi, tu vois. Et il y a eu une phase où il y a eu une grosse phase de professionnalisation parce qu'il y avait de l'argent dans les assos. Et ça s'est fait des fois aussi au détriment finalement du travail bénévole. Et qu'à un moment donné, quand il n'y avait plus l'argent, il y avait aussi les bénévoles n'étaient plus là. Donc, il fallait renouveler le bénévolat d'une façon, l'engagement dans le truc. Et puis la mouvance, ce qui nous inspirait aussi à la base, c'était les trucs Occupy aux États-Unis, les indignés qui n'avaient pas trop pris en France. Et puis voilà. Et un des trucs qui était hyper important, justement, comme tu posais la question là, sur les lieux culturels, les espaces, les squats, si on n'avait pas été hébergé au début directement par le hangar, quoi. si on n'avait pas eu cet espace pour se réunir, cet espace pour...
Le hangar du jardin d'Alice, là ?
Non, c'était le squat, le hangar.
Le squat, le hangar.
Ouais. Et on s'est fait expulser du hangar, et après, on a été accueillis par le jardin d'Alice, quoi. Mais sans ces lieux-là, c'est clair que ça dysfonctionnait au niveau du collectif, parce que on a, vu qu'on fonctionne sans argent, on a besoin d'avoir des lieux, quoi, pour se réunir, pour partager, pour rencontrer d'autres personnes, pour avoir des lieux de convivialité et pas seulement rester entre nous dans des bars, quoi. Et quand on était au hangar, on recrutait des gens parce qu'ils étaient là pour voir ce qu'il y avait autour, et ils voyaient qu'il y avait des réunions, des gens qui montaient des actions, des trucs comme ça, et on récupérait du monde, quoi.
Le 23 mai 2015 aura lieu la 3e marche mondiale contre Monsanto.
Nous marcherons pour défendre une agriculture capable de produire une alimentation saine pour tous.
Montrez que c'est Raoul. Rejoignez-nous.
Des actions sont prévues à Lorient, Rennes, Bordeaux, Lyon, Nice, Marseille, Strasbourg, Paris.
Renseignez-vous, il y en a sûrement une près de chez vous.
Toutes les informations sur www.combat-monsanto.org.
Total, comment vous avez un peu vécu le tout ce qui a été mis en place au niveau de l'état d'urgence, au niveau des engraîneurs, au niveau de la mobilisation des bénévoles, des citoyens qui voulaient s'engager?
Nous, on n'a pas changé les actions qu'on avait prévu de faire. Donc on a des actions de faire des affiches sauvages avec des pochoirs, on l'a gardé quand même, parce que de toute façon, c'était pas sûr que... Cadre ou pas cadre, c'est pas quelque chose qui est habituellement légal, plus ou moins, quoi. Et les autres actions, on a essayé justement... Ouais, par contre, si, on a changé au niveau du message qu'on voulait faire passer. On a fait adopter un pingouin et on a essayé de jouer sur l'humour, en fait, à fond, en disant que la seule façon de se faire entendre, toi, des gens aujourd'hui, vu l'esprit, ce serait essayer au moins de passer un peu par de la légèreté, par de l'humour. Dans le message, quoi. C'était déjà un truc qui était porté par les engraineurs avant, quoi.
Donc ça, c'était spécifiquement pour la COP21
Ouais, c'était spécifiquement pour la COP21, quoi. Donc l'état d'urgence nous a pas fait changer le mode d'action qu'on avait, quoi, de toute façon. Moi, après, ce que j'en disais, c'est que il y avait tous les débats au niveau des grosses coalitions, parce que des fois, on soutient aussi des gros mouvements, comme on était dans la coalition contre le TAFTA et tout ça. On a affaire aussi aux grosses orgas et tout. Et là-dedans, on était déjà dans le pôle animation, machin, faire des trucs un peu différents, quoi. C'était une idée des engraineurs, quoi. Et là, ouais, avec les manifs, on a vu qu'il fallait faire d'autres formes. Et surtout, la question qui se posait avant déjà la COP21, c'est qu'il y avait déjà des divisions dans le mouvement entre ceux qui voulaient faire de la désobéissance et ceux qui voulaient pas faire de désobéissance, qui voulaient rester dans un cadre déjà purement légal, autorisé, quoi. Donc moi, je trouve que finalement, c'était un avantage, parce que ça a forcé tout le monde à se mettre à la page de la désobéissance et de se dire que finalement, la désobéissance, c'est pas plus mal. Et ceux qui avaient des doutes aujourd'hui, ils sont passés naturellement à la désobéissance, qui avaient quand même envie d'agir, quoi, tu vois.
Parce que plus efficace, quoi.
Pas parce que plus... Ça dépend des modes d'action que tu vas faire, à quel moment tu vas les faire et comment tu vas organiser ta désobéissance. Mais ça restait encore un gros mot, j'ai l'impression, pour pas mal d'orgas. Alors que là, finalement, on se rend compte que si on veut agir, il faut désobéir. Et du coup, ça a permis de lancer une dynamique, d'ouvrir des gens qui étaient là. Si on leur avait dit désobéissance, qui était le gros mot, ils étaient là, ah non, moi je veux pas et tout. Et que c'est pas parce que tu désobéis que tu vas faire de la tôle derrière, quoi.
Les images qui vont suivre sont susceptibles de choquer votre sensibilité.
Bien. Vous avez toutes vos feuilles ?
Oui.
Oui. Alors, le premier. Nos profits valent plus que leur survie.
Nos profits valent.
C'est mou, c'est fort. Attendez.
Nos profits valent plus que leur survie.
Eh bien,
nos
allez. Et dans les banques.
Et dans les banques. Et dans les banques. Et dans les banques.
C'est bien. Ah, bah, la démocratie.
Ah, bah, la démocratie. Ah, bah, la démocratie. Ah, bah, la démocratie. Ah, bah, la démocratie.
Bon, on est bien là. On est bien.
Le grand marché transatlantique menace la démocratie. Les élites économiques s'organisent.
Et vous ?
Comment vous avez vécu ça au moment de la manif, quand ça a commencé à gazer, si vous avez entendu la sommation, comment les gens ont ressenti ça
On a fait la chaîne humaine avant et après on a filé sur République, donc on y était, on avait prévu de faire des chansons à la pingouistanaise qui était marseillaise revisitée justement pour faire le contre-pied quoi, avec l'esprit nationaliste un peu qu'il y avait derrière quoi. Et la désobéissance, on avait aussi décidé de mettre des masques en se disant finalement c'est interdit de venir masquer en manif, on va se faire des masques. On avait prévu d'en distribuer aussi. On avait un peu de rame, mais bon, on improvise quoi. Franchement, c'est vraiment le cadre de l'improvisation, spontanéité, créativité avec tout ça quoi. Il y en a qui étaient plus ou moins chauds pour y aller, donc on s'était mis d'accord en disant que à un moment donné où. Ça deviendrait trop tendu, on partirait, puisqu'on est un collectif, donc on marche ensemble, on prend les décisions ensemble. Et le consensus ça avait été de se dire, on se fait pas arrêter, quoi. On n'est pas venu pour se faire arrêter. Donc on s'est barré, clairement, quand on a commencé à tous avoir le nez bien, bien gazé, quoi, on est parti. On a réussi à sortir encore de République, donc ça allait, quoi. Mais après, ce qui était bizarre, c'était l'ambiance autour, parce que nous, on a continué à vouloir continuer notre action dans les rues, aux alentours, Grand Boulevard et compagnie, et c'était mais mort. Il n'y avait personne, et c'est vrai que là, c'est l'autre truc qu'on se rend compte, c'est que c'est pas seulement l'état d'urgence, mais c'est aussi l'esprit des gens qui est pris là-dedans. Et pour avoir de l'écoute, pour avoir des sourires, pour débrider et faire rentrer un autre message, c'était mort, quoi. Les boulevards étaient vides, les gens, ils tracent. Du coup, au bout d'une heure à essayer de rôder dans les rues comme ça, on était se prendre un café et à la fin on a fait vas-y, on arrête là et on en refait une autre après quoi.
Il y a du monde. Bon, ouais, moi j'ai commencé à faire mon assurance vie. Votre manifestation est interdite, mais tolérée sur votre temps. Pas de problème, tant que vous restez sur le trottoir, vous pouvez manifester, mais on vous demande de ne pas passer sur la voie publique, parce que la manif est illégale, c'est pour ça juste. Donc voilà, restez sur le trottoir, ça ira très bien.
L'état d'urgence est climatique, l'état d'urgence est climatique.
Qu'est-ce qu'on veut ?
La justice climatique.
Pour quand ?
Maintenant.
Du coup, pour un truc plus récent là, de cet après-midi, est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est organisé au Grand Palais pour l'inauguration là, qui a organisé cet événement, qu'est-ce que c'est et pourquoi vous y êtes allé et comment ça s'est passé?
C'était entouré autour de différents réseaux activistes en fait, européens, français qui se sont retrouvés. Quoi. Des gens qui se connaissaient déjà, ça c'est parti un peu sur des réseaux de confiance quoi. Mais c'était Climate Justice Action, CJA quoi, qui était la base du truc. Mais après ça s'est rajouté, c'est surtout toutes les bonnes volontés, hein, tous les gens qui avaient envie de faire des trucs qui sont venus. Il y a eu des réunions il y a quelques temps de ça, on parlait et en même temps on savait pas qui était là exactement, comme c'était des trucs super ouverts. Donc après, à un moment donné, tous les détails, tout est reparti sur des petites orgas, des petits groupes, et nous on attendait les infos. Et puis finalement, il fallait juste être présent, quoi. C'était la question
et,
d'être
et
présent.
Et c'est quoi du coup cet espace-là qui est aménagé au Grand Palais pendant toute la COP? Tu peux en dire deux mots là?
Ouais, c'est Solution 21, et c'est les grandes entreprises françaises et les sponsors de la COP 21 qui sont là-bas, quoi. Donc. Il n'y avait pas Total, Total n'a pas de stand, quoi, mais il y avait Engie, il y avait...
Engie, donc GDF Suez.
Ouais, ex-GDF Suez, il y avait Veolia, il y a aussi des startups, il y avait quelques associations...
Carrefour aussi,
ouais, il y avait des trucs sur la bouffe aussi, il y avait l'INRA, donc c'est un peu mélangé, en fait, c'était ça le principe. C'est que finalement, le greenwashing passe par le fait de mélanger les acteurs.
Alors, le but de cette réunion, c'est de travailler sur de nouveaux outils, montrer que des outils déjà existent.
C'est un peu tout ça. C'est l'esprit des expositions universelles. On est en 2015, on fait le point. Donc, il y a des choses qui existent à l'état de laboratoire qu'on va avoir besoin de généraliser, où que ce soit dans le monde, quel que soit l'inventeur, le développeur. Il y a aussi des choses à développer. On a un très beau pavillon monté avec l'ensemble de la recherche française, où pour la première fois, un esprit d'alliance. Il y a 15 grands centres de recherche qui sont là, mais aussi pour montrer qu'on invente, on innove, on développe, on évalue, on finance, on recommence, mais ça veut dire aussi qu'on est capable d'inviter les talents. Et c'est l'essence de la Breakthrough Night qui a lieu vendredi soir, le 4 décembre au Grand Palais, le jour d'ouverture, pour dire à tous ceux qui font l'inno dans ce pays, venez, venez partager, parce que dans tout ce que vous inventez, il y a sûrement des solutions qui peuvent être utiles à tout le monde. C'est bien pour vous, parce que c'est aussi bien d'être utile, évidemment, à la COP21, au pays, mais aussi parce qu'il y a des marchés et qu'il y aura de plus en plus de marchés sur les énergies renouvelables, sur le fait de diminuer l'impact en carbone, sur tout cet écosystème dont on a besoin pour prendre notre part. Parce que les hommes d'État, ils prennent leur part, à nous de prendre notre part aussi dans toute la société. Et on a une chance en France d'accueillir cette COP. J'espère que cette COP va être un accélérateur extraordinaire. On parle de French Tech, de French Touch. Oui, c'est aussi la question climatique.
Les greenwashing, ouais, c'est le fait de mélanger en fait tous ces acteurs et de mélanger des gens de bonne volonté qui ont des vrais projets à défendre avec des gens qui sont là pour maquiller la réalité de leur activité comme les multinationales et dire oui, on fait partie de la même communauté, quoi. On fait partie des gens qui vont apporter les solutions, on fait partie des gens qui se bougent et c'était un peu ça le micmac du Grand Palais. Et après, la com qui était faite autour, c'était voilà, nous sommes les solutions au changement climatique. Alors qu'on voit que, par exemple, Engie, derrière, il y a une grosse poussée en ce moment de com, de lobbying, pour faire passer le gaz comme une des solutions énergétiques. Et le mot d'ordre qui tourne en ce moment dans les réseaux pro-gaz, c'est dire le gaz est le meilleur ami des énergies renouvelables. Sauf que derrière, le gaz, en fait, c'est gaz de schiste. C'est gaz de schiste américain qui est importé. C'est l'implantation de ça en Europe. Et alors qu'en fait, voilà, le bilan du gaz, il est hyper lourd aussi. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a vu ces grosses entreprises-là dire « Ouais, le charbon, c'est mal, en fait. » Et nous, on a compris ce que vous voulez dire. Il faut bannir le charbon. Mais par contre, oui, le pétrole et le gaz, on en a besoin, quoi.
comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé? Est-ce qu'on vous a laissé rentrer? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de sécurité? Qu'est-ce que vous avez fait dedans?
On avait un plan super rodé, on s'était tous vus hier soir déjà pour une bonne partie, et en même temps l'événement était, le fait qu'on allait agir aujourd'hui était public. Donc c'est sûr que comme c'était public, on s'attendait à un comité d'accueil. On ne savait pas quelle stratégie ils allaient l'utiliser. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis 3 barrages de filtrage à l'intérieur. Et ce qui est déjà super bien, c'est qu'à la base, nous, l'objectif, c'était de bloquer l'ouverture et empêcher le public d'y aller aujourd'hui, quoi, pour l'inauguration. Ça devait ouvrir à midi. À midi et demi, ils étaient à peine en train d'ouvrir. Ils fouillaient chaque personne 3 fois d'affilée. Donc pour faire rentrer tous les gens, déjà, ça prenait énormément de temps. Et ils viraient à la tête les gens. Nous, le mot d'ordre était un peu quand même de passer inaperçu. Donc être en touriste ou être voilà. Donc effectivement, il y en a qui sont pas rentrés, qui sont fait virer à la tête ou voir parce que peut-être ils étaient connus. Et une fois à l'intérieur, on s'est rendu compte que en fait, il y avait 3 types de personnes. Il y avait nous, il y avait les journalistes qui nous attendaient et les flics. Et à nous 3, je crois qu'on remplissait, le salon était vide, il n'y avait pas grand monde quoi. Par rapport au Grand Palais, on était peut-être 400 à nous tous réunis, entre les militants, les flics et tout ça. Et il y avait un flic pour un militant quoi. Pour ceux qui ont pu rentrer quoi. Mais ce qui était bien, c'est que on n'a pas réussi à faire exactement tout ce qu'on voulait, parce que la base c'était de faire un sitting qui bloquerait l'entrée pour empêcher les gens de rentrer. Mais le fait qu'on soit rentré déjà pour partie et qu'il y ait pas mal d'actions qui soient parties et chacun de son côté, en fait on n'a pas pu se regrouper, donc tout le monde a fait des actions partout. Il y en a qui sont assis, il y en a qui ont sorti les bannières, il y en a qui ont sorti des caméras qui sont fait arracher et tout ça. Moi j'ai vu un mec, je sais pas pourquoi ce qu'il a fait, mais un caméraman se faire porter par 4 flics bras à jambes maintenant sa caméra dans les mains quoi, et se faire sortir, donc je sais pas pourquoi. Je crois que c'est le président des Amis de la Terre qui est en train de parler devant des caméras, qui s'était mis un autocollant, une fausse solution 21, et qui au moment où il était en train de parler devant 2 caméras, les flics arrivent et l'arrachent en arrière. Et je pense que ça fait un beau plan quoi. Sur le truc, ils se sont fait sortir. Mais par contre, voilà, ils ont sorti les gens les uns après les autres et après on a continué. Ceux qui n'ont pas pu rentrer ont finalement fait des actions. À l'extérieur. Et nous, à un moment donné, on a décidé de sortir à l'extérieur parce que ça puait un peu à l'intérieur. Je sais pas, ça puait leur rance, là, leur vieille solution pourrie, là, donc vieilles odeurs de merde. Et à force de rester à côté, on s'en rend compte, quoi. Donc, on a décidé de sortir. Et là, dehors, on a vu qu'il y a tous les autres copains qui n'avaient pas pu rentrer, qui étaient mobilisés. Il y en a un qui avait grimpé sur le haut d'un lampadaire en haut. Et ça, c'était cool parce qu'ils ont dû faire venir une brigade spéciale de flics qu'on connaissait pas, qui sont des alpinistes et qui ont dû grimper avec du matériel d'alpiniste en haut pour le sécuriser, pour le faire descendre et tout. Et pendant ce temps-là, les autres copains, ils faisaient la tortue autour, en chaîne humaine, autour du pilier du lampadaire. Et après ça, il y a eu une conférence de presse improvisée par des porte-paroles d'assaut qui étaient là. Et dès qu'ils ont fini la conférence de presse, nous, on a pu déployer une grande bannière de 15 mètres qu'on avait prévu de déployer à l'intérieur. Mais on l'avait cachée dans des paquets cadeaux. Et il y a un des paquets cadeaux qui n'a pas pu rentrer, qui a été cramé. En gros, si tu n'ouvres pas ton paquet cadeau, tu ne rentres pas. Quoi. En disant, c'est peut-être une bannière dedans, quoi, une banderole. Quoi. Et du coup, là, on s'est dit, ah, merde, la copine est restée dehors. On a fait ça dehors et on a pu le faire. Et voilà. Donc, et le plan a réussi. Quoi. Surtout, c'est ça le bilan de la journée. On est super contents, quoi, parce que... Alors on est tous là à fêter ça au Jardin d'Alice parce que ça a réussi quoi. Le truc a été fermé, ils n'ont pas ouvert aujourd'hui, c'était le premier jour, ils n'ont pas eu de public, ça s'est pas fait et l'objectif était réussi quoi. Donc au moins on a une victoire dans la COP21, c'est qu'on a réussi à bloquer l'entrée de l'ouverture des fausses solutions 21 quoi. Voilà. Mais franchement c'était cool parce que c'était pas gagné hein. Quand on était à l'intérieur. Ouais, comme tu veux. Mais c'était pas gagné parce que ouais, on savait pas quelle stratégie ils allaient faire, toi. Et le filtrage, le triple fouille, tout ça, toute personne qui rentrait était filmée forcément et tout. Et on a fait les appels internes, on avait des codes quoi. On devait taper dans nos mains. Et si t'aimes les fausses solutions, tape dans tes mains quoi. Si t'aimes le greenwashing. Et là, on commence à faire l'appel. Et normalement, tout le monde devait se réunir. Et là, on voit personne arriver quoi. Sauf que malgré qu'on fasse ça, les flics nous ont pas embarqués. Ils nous ont laissé à l'intérieur, ce qui, on n'a pas trop compris. Donc ça a toujours été un espèce de flou à l'intérieur. Et ils enlevaient les gens un par un, quoi. Tu sais pas pourquoi il y en a qui avait ouvert sa gueule un peu plus fort, quoi. Et paf, t'en as 4 qui le prenaient, les pieds, les jambes. Hop, il sortait. Mais juste, il sortait.
mais c'est terrible ça, hein. Plus de flics que de visiteurs, moi j'hallucine.
Et ils embarquaient pas les gens, quoi, donc ça... Nous, ça nous a créé aucune panique ou quoi que ce soit, en disant, bon, bah, pff, au pire, tu te fais sortir dehors. Mais il y avait... Moi, j'étais à la porte un moment, j'attendais du monde, quoi. Et là, il y a un escadron de 30, ouais, on va dire 30 flics, tous en civil, qui sont rentrés deux par deux au pas de course à l'intérieur et qui se sont dispersés dans tout le salon, quoi. Et là, c'était trop drôle, parce qu'il y avait aussi les exposants qui savaient pas qui était qui là-dedans, comme les flics étaient en civil avec des militants et tout ça. Moi, à un moment donné, je suis à côté d'exposants, j'étais un peu caché derrière leur stand comme ça, en train de regarder, quoi. Et c'était deux femmes, quoi. Et puis elle me regarde, elle fait « Ah, vous êtes un militant et tout ?» Je fais « Non, police. » Elle fait « Ah oui, fait, ah, vous êtes nombreux aujourd'hui. Hein. » Et donc, elle fait « Ah oui, bah, bon, c'est pour les militants. » Elle fait « Ah, nous, on est les gentils. » Je fais « Pourquoi est-ce que vous imaginez que les autres sont les méchants ?» Elle fait « Non, mais... » Et du coup, elle était complètement confuse. Quoi. Elle savait plus, c'est un militant, c'est un policier et tout. Pourquoi il dit ça? Et à la fin, j'aurais dit « Non, non, c'est bon, je suis un militant. » Mais c'est ça qui était drôle aussi. Quoi. C'était vraiment le jeu de le chat et de la souris, de s'infiltrer à l'intérieur. Voilà, mais... Et puis c'était bien, c'était réussi, parce que tout le monde, il y avait le même esprit pour tout le monde, et une fois qu'on y était, c'était pour faire quelque chose. Donc même si ça s'est pas passé comme sur les plans exacts de ce qu'on voulait, tout le monde y a été de sa petite note, de son petit truc, et à la fin, ça fait que voilà, c'était bloqué, c'était réussi, c'était cool. Mais non, c'était bien, j'étais vraiment content.
Tu veux pas parler des bombes puantes? Je trouve l'anecdote assez excellente, mais après, bon, si ça dessert le propos, laisse tomber.
Ouais, bah moi j'étais pas... c'est pas moi qui les avais dans les mains, quoi. Donc tu peux demander à quelqu'un qu'on avait dans les mains qui te raconterait des anecdotes
Ouais.
Comment ils ont dû sortir la main au fond de la poche tellement épuée parce que la fiole leur a pété dans les mains avant de l'ouvrir. Et tu les reconnaissais à l'odeur, quoi. Mais ça pue à la mort, quoi. C'était du jus de poisson concentré fait maison et tout, quoi. Donc, et c'était drôle, quoi. Quand ils ont commencé à en lâcher et tout, t'as tout le monde qui se regardait les uns à côté des autres, genre putain, mais t'as lâché une caisse ou quoi, là. Mais ça pue la mort, quoi. Mais bon, ça aurait pu être pire, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu rentrer avec dedans, quoi.
Il y avait aussi, visiblement, j'ai eu d'autres anecdotes, comme quoi dans la file, t'avais tout un rang de CRS qui bloquait et qu'il fallait passer entre deux CRS. Et qu'en gros, il y avait un mec qui te prenait en photo, genre tout près, et que tout le monde s'est fait prendre
c'est
en
ça.
Photo.
C'était le premier rang, en fait, tu faisais la queue dans la rue. Et c'était impressionnant parce que on est arrivé, il y avait une queue de malade devant le Grand Palais pour le truc. Mais sincèrement, je pense que les trois quarts qui étaient en train de faire la queue, c'était nous, quoi. Donc, et par contre, après, tu passais devant un premier truc, il y avait les agents de sécurité et les flics, et ils disaient, toi, tu rentres, quoi. Et le but, c'était quand même se déguiser, c'était quand même le mot d'ordre, quoi, c'était passer inaperçu. Mettez des fringues où vous n'allez pas vous faire reconnaître, quoi, tu vois. Et... Moi, j'ai ça comme anecdote, c'est que j'étais dans le groupe Bannière, Bannière, en anglais, c'était Banderole. Il y en a qui avaient des banderoles cachées dans le froc, quoi. Je m'occupais du groupe et tout, et il y avait deux Anglais. Et impossible de les retrouver dans le salon, quoi. J'étais là, ils sont où, quoi. Et je cherchais tous les gens du groupe. Et en fait, j'ai fini par les retrouver. À un moment donné, c'est eux qui m'ont trouvé. Mais ils s'étaient super bien déguisés. Ils étaient dans une friperie. Le gars s'était acheté un costard à 2 balles et tout ça. Alors qu'un ananas était avec des trucs accrochés dans les cheveux, machin et tout. Elle s'était mis un vieux tailleur aussi. Lui, un vieux costume qu'ils avaient acheté dans la friperie. Et c'est pour ça que je ne les reconnaissais pas. Ils passaient complètement inaperçus. Ils avaient joué le jeu à fond, quoi. Et même moi, j'arrivais pas à les retrouver dans le tas, quoi. Et quand ils étaient là, ouais, c'est bon. Mais par contre, eux, ils ont fait le truc. Ils étaient tous les deux. C'était un couple, quoi. Et à peine ils ont commencé à sortir le truc du pantalon qu'il y avait tellement de flics partout qu'ils se sont fait sauter dessus. Mais c'était... Non, c'était, ouais, c'était bien organisé, quoi. Chacun avait des petits rôles différents, quoi. Et au final, ça faisait un bon truc, mais bon, c'était... L'intérieur, c'était le bordel pas possible, quoi. C'était... En plus, c'était marrant sur certains... Moi, j'étais en mode espion aussi, à l'intérieur, avant de voir, quoi. À un moment donné, il y avait... Parce que j'avais pris un Parisien, le programme du truc et tout, t'achetais SAP, machin, et tout. Il y avait tous les RG qui étaient clashés derrière dans le stand d'NG, quoi. Et j'étais avec Seb, et Seb il parle avec le mec, machin, d'NG, je m'assois à côté d'eux, et les RG ils étaient à 5, planqué derrière une demi-cloison comme ça qui coupait le stand, en train de regarder les potes qui étaient en train de commencer à se regrouper un peu. Et je suis en train de les espionner, de voir ce qu'ils disaient. Ils étaient là, ah ouais, bah regarde lui, tout ça, là, ils vont se mettre ensemble, machin, et tout. Ils commençaient déjà à compter, à voir les gens, quoi. Mais ça a été ça à l'intérieur tout le temps, quoi. Il y a une copine tout à l'heure qui disait, elle était suivie par des flics, mais elle a l'impression que c'était des stalkers derrière qui voulaient lui demander son numéro de téléphone, quoi. Elle avait envie de faire demi-tour pour aller leur demander, genre, ouais, tu veux m'en dire aussi, ou. Mais non, c'était bonne ambiance, quoi. Et les flics, ils étaient un peu coincés, quoi, parce qu'il y avait tellement de journalistes et tout à l'intérieur. Ils pouvaient pas être en tenue, ils pouvaient pas envoyer les CRS à l'intérieur parce que c'était un lieu privé. Donc c'était, c'était en fait, je pense qu'eux, ils ont pensé nous niquer à un moment donné avec le filtrage et tout ça, et qu'au final, ça s'est retourné contre eux. Ça s'est retourné contre eux parce qu'ils ont envoyé quasiment plus de flics que ce qu'on était, on avait réussi à rentrer à l'intérieur. Peut-être qu'on, je pense même pas qu'on soit, on ait réussi à rentrer à 100 à l'intérieur alors qu'on devait être peut-être 300 dehors, quoi, tu vois. Et il y avait 100 flics aussi, quoi. Donc, t'es là, tu croisais les parcours, machin et tout. Et... Mais à un moment donné, je pense que eux, leur objectif, c'était de tous nous faire sortir et que le truc continue et que ça dure pendant une heure et que le salon a lieu et qu'au final, leur objectif, il est pas atteint. Le nôtre, il est atteint. Le leur, il est pas atteint, quoi. Parce que le salon a été fermé tout l'après-midi et que nous, c'est ce qu'on voulait, quoi.
Juste, on fait une visite.
Ouais, reste là.
On était prévu dans le
monsieur,
programme.
Monsieur, respectez les consignes. On a des consignes pour travailler. On veut travailler en toute sécurité. Vous rentrez pas dans le périmètre, c'est tout. Pour l'instant, vous restez ici.
C'est où le problème de sécurité? On s'est fait fouiller trois fois pour rentrer.
Et bah pour l'instant, pour éviter un trouble à l'ordre public, vous restez
donc
ici.
Donc on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de parler.
Vous avez le droit de vous exprimer. On vous laisse vous exprimer librement.
On a le droit de s'exprimer. On nous fait retirer nos pulls pour vérifier qu'on n'a pas un t-shirt avec un signe.
Dans le cadre du plan Vigipirate, c'est pour tout le monde pareil, monsieur. Il y a des consignes de sécurité.
Ah non,
il faut pas un t-shirt avec.
Tout le monde a été fouillé, même nous.
Et donc il y a des inscriptions sur les t-shirts.
Dans la police, on a
regardé quel t-shirt vous aviez.
Est-ce que tu veux causer dans un peu ce qui va se passer d'ici au 12, des prochaines actions, comment vous allez anticiper ça, qu'est-ce qui va se passer là, des prochains événements
Moi, je sais y a quelques trucs qui sont encore en train de se prévoir, en fait, c'est ça qui est chiant, quoi, c'est que tout est sur l'improvisation, en fait, ça a désorganisé les trucs, donc on fait carrément un réseau de personnes qui se connaissent, qui s'envoient des invitations à venir ensemble parce qu'on se connaît, parce qu'on s'est vu, et ça marche vraiment à la confiance, et c'est ça où c'est hyper important, en fait, quoi, de se connaître ou de s'ouvrir à des étrangers parce qu'ils sont venus, parce qu'il y en a d'autres qui les connaissaient et tout, mais là ça marche à fond en réseau, quoi, les gens qui sont prêts à bouger, qui se connaissaient, qui ont déjà fait des trucs ensemble et tout. Et c'est ça que ça empêche le côté état d'urgence et tout, c'est que nous, aux engraineurs, le truc qu'on fait d'habitude, c'est essayer de faire des actions où on va faire venir des gens qui sont pas habitués à manifester. Par la forme qu'on va vouloir lui donner, par une forme de créativité, d'inclusion. Pour nous, une manif réussie, c'est celle où il va y avoir des parents, des enfants, des poussettes, des gens qui disent bah, « moi, je ne viens pas manifester d'habitude ». Mais j'aime bien l'ambiance que vous avez envie de mettre, ou avec des événements et de la musique dedans, des intervenants, mélanger conférences et tout. Et là, on ne peut pas le faire, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appeler les gens à sortir de chez eux, à venir nous rejoindre, en plus. Et surtout, tu as le côté médiatique derrière, avec ce qui s'est passé à la République, de dire, ah, bah, attention, forcément, si tu vas manifester dans la rue, si tu vas te désobéir, c'est que tu es parmi les violents et tout ça, quoi. Et ça, c'est le handicap. Mais l'autre force qu'on a à côté, c'est que ben, on se connaît et que on peut réunir les réseaux. Et là, il n'y a pas d'étiquette, quoi. Maintenant, c'est partout. Et justement, tu disais pour le 12 décembre, il y a les lignes rouges. on attend encore un peu des consignes là-dessus. Moi, perso, quand il y a eu l'interdiction des manifs, on était plusieurs à venir à une réunion de brainstorm ici au Jardin d'Alice, qui était comment on fait, quoi. Et on a été plusieurs à avoir eu la même idée, qui était on fait une manif décentralisée, c'est-à-dire on appelle à ce que les gens se mettent à chaque coin de rue. Avec un message, et ce qui fait que tous les gens qui passent vont pas capter, quoi. C'est-à-dire, tu passes une fois, t'en as rien à foutre. Les gens qui passent à côté d'une manif, on en a rien à foutre en général, quoi. Ils vont même pas essayer de comprendre ce qui se passe. Ils sont là, il y a une manif, il y en a 10 par jour à Paris, quoi. Mais si tu croises des gens à tous les coins de rue, à chaque fois tu vois un message et tout ça, tu fais, mais pourquoi il y a des gens partout, quoi, toi. Et cette idée-là, il y a un groupe avec des ONG aussi qui essaie de le concrétiser, c'est les Amis de la Terre qui sont maintenant moteurs sur le truc, quoi. Ça s'appelle Climate Justice for Peace, et l'idée, c'est de faire que les gens se positionnent partout dans Paris à des points précis, et que les points reliés ensemble fassent l'écriture, une bannière géante dans Paris qui écrive Climate Justice for Peace sur tout Paris, quoi, dans tout le cercle de Paris intramuros, avec 50 mètres de différence par groupe de 2 ou 3 personnes, et que les gens, par contre, ça implique que les gens se géolocalisent sur un site dédié à ça, donc avoir un téléphone dédié, machin. Donc on va essayer aussi de créer pour ceux qui veulent qu'on pas de téléphone ou qu'on pas envie de se géolocaliser, il y aura des gens qui vont être là spécialement dédiés avec leur téléphone pour faire le tour du truc, ouais. Et ça a jamais été fait, c'est un putain de défi de monter ça en 15 jours. Il y a tout l'aspect politique de voir combien d'organisations on arrive à amener, parce que les organisations, il y a quand même un nombre de bénévoles important derrière, quoi. Genre par lettre il faut 60 personnes et il y a 25 lettres à faire, un truc comme ça, je crois. Donc c'est... Nous, les engraineurs, on fait une lettre, on va faire un C comme citizen, parce que chaque lettre est thématique après, quoi. Mais bon, voilà, c'est... On fait de l'impro, on tente des nouveaux trucs, on voit ce qui passe, ce qui passe pas. Franchement, c'est ça qui est cool, quoi. C'est que... Si on avait fait tout planifié, tout comme d'habitude, on serait resté dans les limites qu'on se pose même... de façon non volontaire, quoi, toi. Et là, finalement, on est obligé de tout remettre en cause, tous les modes d'action, tous les modes d'implication, désobéissance et autres. Et ça fait sauter un pas, ça fait des alliances, des nouvelles alliances, ça fait bouger les lignes dans les coalitions d'assaut et tout ça. Et ça, c'est plutôt le côté cool de vouloir nous empêcher de faire, c'est que finalement, ça montre toute la diversité du mouvement. Et que c'est pas parce que tu coupes la tête d'une grosse orga qui sert à rien comme VVF que tous les autres vont pas continuer à bouger derrière. Parce que le panda, il a rien fait du tout, quoi. Et on leur a dit de rentrer chez eux, ils sont rentrés chez eux, ils ont fait « Ouais, ne coupez pas les subventions, s'il vous plaît !» Mais bon, de toute façon, ils servent à ça, quoi. Donc, à prendre des subventions et à faire du greenwashing.
Cool. Tu veux donner un mot de la fin ?
C'est le slogan qu'on avait pour adopter un pingouin qu'on a fait dans les rues. C'était l'action qu'on a fait avec les engraineurs. C'était adopte un pingouin, t'es déguisé en pingouin. Et derrière, la métaphore du pingouin, c'était le réfugié climatique, quoi. Et on disait c'était la crise de la banquise et tout ça. Et le slogan qu'on allait voir pour aller voir les gens, on disait c'est je sais que t'es solidaire, mon frère, je sais que t'as du cœur, ma soeur. Alors adopte un pingouin, franchin. Et on allait voir les gens avec ça. Et on demandait des câlins, mais bon, les gens visiblement n'avaient pas de place dans le frigo pour adopter trop de pingouins, quoi. Donc ça fait un peu bouler quand même, mais ça nous a pas empêché de continuer, on va le refaire.
Merci.
Cette première émission est terminée. Encore merci à Benjamin du collectif Les Engraineurs pour son témoignage et à Megacombi pour les sons de l'intérieur du Grand Palais. Maintenant, l'idée, c'est d'en faire d'autres. Peu importe le thème, qu'il soit d'actualité ou non. Toutes les formes radiophoniques sont intéressantes. Documentaire, fiction, débat, lecture, conférences, mix, bruitistes, voire pourquoi pas ASMR. Je vous laisse un lien sur le site internet pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Il n'y a pas encore de nom à l'émission. J'ai mis à votre disposition un vote sur le site internet afin de choisir celui qui convient le mieux parmi ceux que j'ai sélectionnés. Vu que c'était ma première en radio, n'hésitez pas si vous souhaitez m'aider et participer à l'aventure, intervenir dans la prochaine émission ou proposer vos conseils, avis, envies ou idées via mon mail ou dans les commentaires. Merci de votre écoute et à la prochaine émission.